Alors, on va faire une session là, donc c'est le projet collaboratif là. On est en retard sur le programme, donc ce que je propose, c'est que les trois intervenants qui représentent les points de contact nationaux, qui sont donc des gens qui suivent de très près les évolutions bruxelloises et ont donc d'excellentes informations à vous donner, vont vous faire une présentation, je dirais, on va essayer de s'en tenir à 10 minutes par personne. Donc ça nous fait plus ou moins une demi-heure de présentation. Et puis ensuite, on aura des témoignages justement de collègues qui eux-mêmes donc sont impliqués dans cette recherche et sont coordinateurs ou partenaires dans les projets de recherche. Ils vous donneront donc un peu de feedback personnel de leur expérience. Alors commençons tout de suite. Nous aurons donc trois orateurs. Donc, nous aurons Bazudeb Chaudhury donc, pour les sociétés inclusives, innovantes et réflexives. On aura Guillaume Fuseil donc pour les actions Marie Curie et puis Didier Michel ensuite pour Science avec et pour la société. Bazudeb, la parole est à toi.
Merci beaucoup Philippe. Donc je suis donc coordinateur de ce PCN de déficit, mais parallèlement je suis aussi donc enseignant chercheur en poste au laboratoire de sciences éco à l'université de Caen dans une UFR qui est une UFR économie, géographie, gestion et aménagement du territoire, pour dire ce sont les regroupements intéressants à court en ce moment dans la transversalité et l'interdisciplinarité. Voilà, donc c'était ça, vous le connaissez déjà, Philippe Quéredon l'a présenté tout à l'heure. Donc comme vous avez déjà vu les transports avec les sujets, je vais essayer d'être complémentaire à ce qui a été dit ce matin, donc sous les thèmes. Donc nous avons bien évidemment traduit nos présentations en français dans la mesure du possible. Des fois, on laisse peut-être quelques mots en anglais. Ça, vous avez déjà vu les ordres de grandeur, etc. Je vais commenter plus spécifiquement, et c'est ça, là où je vais essayer d'être complémentaire à la présentation de ce matin. Je vais commenter plus spécifiquement, un peu une lecture entre les lignes de chacun de ces quatre projets qui ont été présentés ce matin pour vous dire là où, selon vos disciplines et vos champs d'intérêt, vous pouvez essayer de vous positionner. Je vais vous dire d'emblée que... Pardon, excusez-moi. C'est plutôt celui-là, oui. Que le premier volet, qu'on appelle la co-création, est... Bon, ça, c'est déjà notre septième présentation un peu partout en France en trois semaines. C'est la période la plus intense de présentation de ce programme. Ce volet, qui a une enveloppe importante d'environ 56 millions d'euros, présente peut-être le moins de points d'accrochage à notre communauté dans l'ensemble. D'accord ? Ce volet a une orientation, a une première lecture très économique. Il y a aussi du social là-dedans, mais ce qui paraît, c'est que c'est très orienté vers une mise en application de ce qu'on peut appeler vulgairement des produits et des services de marché ou du secteur non marchand aussi. Ça implique des services publics et un ensemble de services parapublics où on demande l'implication des chercheurs. Pour vous dire, ce n'est pas comme si ça n'existait pas dans le précédent programme de travail 2014-15. C'était très présent dans le volet qu'on appelle INSO, où il y a eu beaucoup de réponses et où notamment j'ai eu, juste pour vous commencer de donner un peu une idée de résultat, beaucoup, beaucoup de sollicitations de la part de PME, des très petites entreprises, des associations qui souhaitent contacter des chercheurs pour travailler sur un ensemble de domaines qui les intéressent, par exemple, travaillent dans le domaine de l'inclusivité et de non-inclusivité, travaillent dans le domaine de l'environnement, des services à la personne, donc tous en utilisant différents types de technologies. Donc cet ensemble était déjà là. Co-création, globalement, reprend ce thème en faisant... Bon, je ne vais pas tout commenter tous les blocs dans un quart d'heure. Je vais vous essayer de donner donc une lecture globale. Bien évidemment, si cela vous intéresse, et je vous inviterai à le lire quand même si vous n'y allez pas là-dedans, pour voir comment, à travers les nouvelles technologies, les plateformes, les interfaces entre public et privé, entre marché et domaine non marchand, on essaye de faire ce qu'on appelle la co-création, qui est un peu novlangue pour coopération et création de la valeur ajoutée, d'accord, dans un ensemble de secteurs qui ne sont pas nécessairement toujours uniquement marchands. Donc, il y a quand même des choses d'intérêt. C'est aussi bien, par exemple, comment faire l'insertion des jeunes ou l'insertion des chômeurs ou l'insertion des personnes handicapées des milieux particuliers en faisant travailler ensemble ce qui peut être des entreprises vraiment qui font des produits avec les associations qui le livrent, avec le secteur public qui est en charge de gérer tout ça, etc. Donc, c'est ça l'idée de co-création. Donc, c'est des ensembles de produits et de services. Et l'idée qui est centrale, qui doit nous interpeller en tant que communauté SHS, c'est vraiment qu'il y a différents acteurs dans cette chaîne, qu'on appelle couramment les stakeholders, d'accord ? Comment intégrer les stakeholders pour qu'il y ait vraiment cette démocratie associative, participative, etc., qui entre dans le processus ? C'est quand même un des challenges très intéressants dans ce projet. Beaucoup de gens pensaient immédiatement, ah ok, ça concerne les économistes, les gestionnaires, peut-être un peu de droit, mais moi je dirais que ça vient bien au-delà. D'accord, donc ça c'est quand même quelque chose, bon en général il n'y a pas eu beaucoup de réactivité dans les présentations à ce volet, mais je voudrais dire quand même qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à y faire là-dedans dans cet ensemble. Deuxième remarque, il y a aussi, et ça c'est dans la dernière partie 7, 8, 9, c'est aussi de mobiliser, de l'utiliser l'ensemble des données, des informations qui existent de façon dispersée au niveau local, national des pays, au niveau européen bien sûr, mais il y a beaucoup de données ou d'informations qui ne sont pas, disons, mises ensemble. Et dans l'ensemble du programme de travail 2016-2017, dans chaque volet, il y a cette demande de mise ensemble d'informations, bien évidemment avec un peu le big data en tête pour ensuite l'utiliser de façon large, qui sert toutes les communautés. Parce que nous-mêmes, vous le savez, vous avez sans doute été confrontés à ce problème. En cherchant des données spécifiques qui soient un peu en dehors de votre domaine, vous avez du mal à trouver. Donc précisément, c'est de regrouper tout ça pour mettre en utilisation, et encore je vais vous dire un de ces idées clés qui travaillent tout le milieu SHS sur le plan européen, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui « evidence-based policy », c'est-à-dire des informations fondées sur des données qualitatives et quantitatives avec un genre de, oui, c'est un peu vulgaire, je dirais démonstration à la mathématique. Bien évidemment, les économistes sont un peu obsédés par cette idée de « evidence-based policy » en ce moment, mais ça quand même, je dirais que ça va bien au-delà. Je ne parle pas uniquement à mon tribu, je souhaite absolument parler à l'ensemble. Cette méthode, juste pour dire 30 secondes, vient du domaine pharmaceutique. C'est l'idée de random control trials qui est devenue très à la mode. Donc, si, dans l'ensemble de disciplines, je dirais là aussi, il y a un challenge méthodologique à voir, c'est-à-dire comment, au-delà de ceux qui le font déjà, l'utilisation de cette méthode entre, et ma prédiction, c'est que ça va entrer massivement dans les sciences sociales. Donc, comment est-ce qu'on peut l'approprier pour faire la meilleure utilisation et pour ne pas avoir certains, je dirais, résultats un peu ridicules qui circulent dans l'utilisation de ces données en ce moment. D'accord, je ne dirais pas plus, mais c'est quand même un défi à l'ensemble des sciences sociales qui utilisent des données qualitatives et quantitatives. OK, je passe à la suivante. Je ne dirais pas plus sur la co-création. J'arrive à... 3 minutes. Okay. à inégalité. Bon, je vais juste mettre l'accent sur un élément particulier. C'est à la demande de la France après les événements de janvier qu'il y a un volet important qui a été mis dans un de ces projets sur tout ce qui concerne la radicalisation. Étant donné que cette partie a été mise à la demande de la France et que la France a des compétences particulières dans ce domaine, bien évidemment, la France a aussi des compétences comme Philippe Kerdon a dit ce matin sur l'inégalité, justice, etc. Mais dans ce domaine en particulier, ce serait dommage s'il n'y a pas une réponse, je dirais, assez large venant des équipes françaises, ce qui sera certainement possible. Et notamment, n'oubliez pas, je glisse un mot, il y a les 50 000 euros de l'ANR pour la construction de ce réseau européen qui est vraiment du seed money pour construire la plateforme pour les projets européens à utiliser et à postuler tous les 4 ou 5 mois. Il y a un deadline en novembre et ensuite un autre en février ou mars, etc. Donc à utiliser. Voilà, donc ça, c'était les deux premières. Ensuite, bon, je dirais aujourd'hui beaucoup moins sur engaging globally, bien évidemment, dans le volet précédent, c'était Europe as a global actor, la place de l'Europe dans le monde. Ça continue sur toutes les zones, bien évidemment, dans les deux grands pôles qui sont représentés ici, ça fait partie de vos grands domaines de compétences et il faut être présent en force. Hein. Je vais donc, dans une minute, aller sur le dernier. Donc, il y a toutes les régions du monde sont concernées avec des projets spécifiques que vous pouvez voir. Encore dans les précédentes, ce volet s'appelait Reflective. Hein. Maintenant, c'est donc comprendre l'Europe, promouvoir l'espace public et culturel européen. Il y a beaucoup de humanité numérique. Il y a l'ensemble de ce qui était... Comment utiliser le passé pour tirer les enseignements du présent et de l'avenir? Cette idée est très, très forte. Et bien évidemment, ça peut notamment concerner toutes les disciplines qui étaient, entre guillemets, en bas du tableau dans l'ERC, c'est-à-dire avec peu de projets ou peu d'argent. Là, il y a quand même de quoi, je dirais, trouver en termes de projets qui couvrent un ensemble de domaines, qui trouvent peut-être naturellement moins de fonds par rapport à certains domaines comme économie ou gestion ou droit. Donc voilà, donc encore, c'est quand même un volet couvrant vraiment le champ intégral de la culture qui est de culture, de patrimoine, d'héritage, les musées virtuels dont mon collègue Didier va parler, qui sont concernés. J'ai fini, je vais juste vous dire, nous sommes tout le temps disponibles toute la semaine, tout le temps, par tous les moyens de communication moderne, c'est ça notre défi. Et donc, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, Skype, email ou si vous voulez des rendez-vous à Paris pour discuter vos projets. Nous serons extrêmement contents de le faire. J'espère entrer dans cette phase d'ici un mois. Je suppose que vous serez sur les starting blocks.
Merci bien, et puis merci surtout de dire que les points de contact nationaux que vous avez devant vous là, sont là pour être utiles et utilisés. Donc si vous avez des questions, etc., allez les voir. Ceci dit, il faut toujours faire un travail, un homework, qui est quand même d'aller sur les sites de la commission d'Horizon 2020 pour avoir les informations. Souvent, c'est très riche. Mais parfois, il faut savoir lire entre les lignes ce que mes collègues BCN font très bien. Alors, je me tourne maintenant donc vers mon collègue ici à droite pour qu'il continue à faire donc la présentation sur les bourses Marie Curie, mais donc au niveau collaboratif.
Bon, rebonjour. Donc, je vais reprendre mes explications sur les bourses Marie Curie. Je refais juste un tout petit point par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Ce matin, vous avez bien compris que le projet qu'on vous demandait en 10 pages, c'était vous, votre CV, le projet de recherche et l'endroit où vous voulez le faire. Et pourquoi c'était vous la bonne personne pour faire ça à tel endroit. D'accord ? Avec une supervision, etc. Là, on va voir des choses où on va demander à des institutions de se regrouper en réseau, de déposer un projet, donc on ne traitera pas le nom ou les personnes dedans, et après, elles vont pouvoir recruter ou faire des mobilités à des chercheurs. Alors juste, je ne l'avais pas cité ce matin, mais c'est quand même important pour quand même garder ça en mémoire, c'est que les programmes Marie Curie, ce n'est pas juste pour financer de la mobilité des chercheurs, pour le plaisir d'aller visiter Rome ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment pour répondre à un problème politique. On n'est pas comme dans l'ERC où c'est Blue Sky. Là, c'est vraiment pour répondre à des problèmes politiques. Entre autres, retenir et attirer les meilleurs chercheurs. Mais surtout, je pense que le maître mot dans Marie Curie, c'est la formation. Quelque part, c'est... soit en bourse individuelle, soit comme on va le voir avec ce que je vais présenter là, les parties pour les thésards, il faut former des jeunes et des meilleurs chercheurs avec des compétences maximum. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de mettre en place des formations innovantes pour que les gens, non seulement fassent une belle recherche, mais soient aussi capables par la suite d'avoir une carrière la plus performante possible. Donc, même dans le cas des bourses individuelles ce matin, il faut faire aussi de la formation. On demande beaucoup de participation du secteur non académique. Hein, c'est quand même quelque chose qui est plus fléché que l'ERC. Donc là, on demande beaucoup de choses sur le secteur non académique parce que pour la commission, il est strictement impossible qu'un chercheur maintenant passe sa vie qu'au CNRS ou que dans un milieu privé. Il va y avoir en permanence peut-être des basculements de carrière. Bon, c'est sa vision, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon, 6 milliards d'euros, c'est ce que j'avais dit ce matin. Je ne vais pas passer sur tout le reste. Je rappelle les conditions de travail qui, en France, sont quand même de qualité, mais pensez à le dire, sinon personne ne le sait. Je vais vous parler d'un outil qui est les ITN, Innovative Training Networks. Donc, cet ITN, on le sous-divise en trois thématiques, ETN, EID, EJD. Et l'idée, c'est de former des early stage. Je vous rappelle la définition que j'ai donnée ce matin. Early stage, c'est soit votre master M2 ou pas de thèse. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de former des thésards. Donc, à l'ITN, on va prendre le financement de salaire de thésards. Point. Ça sert à ça. Hein ? Et retenez ça. Donc, on va les former non seulement à avoir des compétences scientifiques, thématiques, etc., donc être les meilleurs en linguistique, en ce que vous voulez, parce que ça, vous êtes très bon, mais aussi on va leur donner de quoi avoir une carrière par la suite qui va être la plus large possible avec une collaboration, et c'est écrit en tout dernier point, en milieu académique, non académique. Donc, non seulement il y a l'excellence scientifique, l'excellence des formations que vous allez mettre en place, mais il va falloir répondre à toutes les thématiques. Et c'est ouvert à nouveau à tout. Il n'y a pas de fléchage, c'est bottom-up. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Il y a juste plus de demandes sur l'impact, etc. Donc, l'idée principale, c'est la formation à travers un projet de recherche. Hein, d'accord ? L'activité principale d'un ITN, c'est ça, c'est la formation de thésards à travers... On va les former avec des écoles d'été, des choses qu'il va falloir mettre en place, où vous allez les inscrire si elles existent déjà. Soyez précis, donnez toutes les indications de formation les plus précises possibles. Il va falloir les former aussi à parler. Un chercheur qui ne sait pas parler de la recherche qu'il fait et qui ne sait pas la présenter aux gens qui l'ont financée, ça ne colle pas, etc. Donc il va falloir se mettre en place. Vous aurez deux types de bénéficiaires, de personnes qui peuvent participer à un ITN. Soit les organismes sont purement bénéficiaires, donc grosso modo, ils signent avec la commission, ils reçoivent de l'argent de la commission et ils embauchent des thésards. Soit vous êtes juste partenaire, c'est-à-dire de deuxième rang, c'est pas vous qui touchez l'argent de la commission, vous pouvez en recevoir, ceci étant via vos offres, et vous n'embauchez pas de thésards. On ne peut recruter que des thésards, je l'ai dit, pendant des périodes de 3 à 36 mois. Ces thésards que vous recrutez en France une fois que ici vous avez été sélectionné, parce que vous faites partie d'un ITN sur le linguiste, ne peuvent pas être français. Enfin, ne peuvent pas avoir résidé. Ils peuvent être français, c'est pas le problème. Ils peuvent pas avoir résidé plus de 12 mois lors des 3 dernières années en France. Donc, majoritairement, les jeunes en général sont plutôt en train de suivre leur choix. Donc, ils vont être recrutés. Vous allez recruter des Allemands, des Américains, ce que vous voulez. Mais il va falloir respecter la règle de mobilité que je vous ai donnée. Donc, il y a 3 types d'ITN. Donc, ETN classique avec 317 millions d'euros, je vais revenir dessus. Les EID pour European Industrial Doctorate, donc vous avez absolument participation du monde non académique. Et les EJD pour délivrer un diplôme de co-tutelle en thèse ou conjoint. Alors, les règles d'éligibilité pour ces trois types de bourses sont, pour un ETN, 3 organisations de 3 pays différents européens. Donc, vous en êtes une, il vous reste à trouver quelqu'un en Suisse et quelqu'un en Roumanie. La Suisse est éligible dans ce cas-là. Et puis, c'est tout. Ça peut être 3 personnes du secteur non académique, 3 institutions du secteur non académique. Ça peut être 3 académiques. Je vous conseille de faire un mélange. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour les EID, European Industrial Doctorate, il vous faut mettre 2 partenaires, donc un public, un non-public, de 2 pays différents. Et c'est tout. Pour les EJD, il vous faut 3 bénéficiaires du secteur académique capables de délivrer une thèse. En France, ça s'appelle université. Je n'en connais pas d'autres. Donc, une fois qu'on a ça, vous pouvez rajouter qui vous voulez.
Les écoles.
Ils ne délivrent pas de thèse. Ah bon, voilà. Ah bon, alors, ça change, je ne connaissais pas. Donc voilà, vous avez là des... Vous avez là... des projets de ETN classiques, donc vous voyez 3 partenaires publics, 2 privés, etc., des bénéficiaires puis les partenaires, les EID en version 2 partenaires uniquement, 2 bénéficiaires uniquement. Si on en a plus, la seule avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on peut embaucher jusqu'à 500 personnes moins, alors qu'avant c'était 180, d'accord ? Donc on a ce petit décalage, si on n'a que 2 partenaires, on embauche moins de monde. Et puis les EJD, donc 3 partenaires académiques, et puis voilà. En une seule slide, tout ce que je vous ai raconté. Retenez qu'un ETN classique, on n'est pas obligé de faire en sorte que les thésards que vous embauchez passent leur thèse. Vous n'êtes pas obligé de vous engager à ça. Par contre, dans les autres cas, il faut absolument qu'ils soutiennent leur thèse. D'accord ? Donc, ils sont inclus dans une école doctorale. 2 minutes, j'accélère. Qu'est-ce qu'on touche dans ces cas-là ? 3 100 € de living allowance, c'est ce que va toucher le thésard pour vivre, multiplié par un coefficient FEI, 600 € de mobilité allowance parce qu'il bouge, et 500 € de family allowance, c'est une famille à charge. Vous, en tant qu'institution haute, vous avez touché 3 000 € d'argent, 1 800 € pour les research, training, etc., pour faire fonctionner le laboratoire, et 1 200 € pour le management. D'accord. Les deadlines, la prochaine 12 janvier, c'est très chaud. Mais après, vous pouvez vous présenter l'année prochaine, le 10 janvier 2017, ça sera pareil. Donc c'est pas mal. Je passe sur les résultats. Taux de succès retenez assez bas, autour de 10%. C'est un peu le compliqué. Tout le monde veut former des thésards dans son domaine. Ça paraît cohérent. L'avenir est assuré comme ça. Donc je passe vite là-dessus, vous aurez le temps. On retrouve la même idée qu'en Marie Curie, que les ITN, que les IF ce matin. La pression de sélection fait le nombre de dépôts. Donc plus il y a des gens qui dépensent en sociaux, en éco, plus vous avez de bourses d'ITN retenues, moins il y en a. Donc vous voyez que c'est les life science et les engineering qui sont qui déposent le plus, donc qui ont le plus d'ITN derrière. Je passe, la France est troisième, et voilà, il y en a eu des EJD, je vous laisse tomber, vous lirez tout ça, parce qu'il faut aller vite. Je voudrais juste arriver au dernier point de mon exposé, qui est un autre outil, RISE, pour Research and Innovation Staff Exchange. Donc là, l'idée, c'est de promouvoir une collaboration internationale et intersectorielle. Donc il y a les deux. International, ça veut dire vers des pays tiers non européens. Donc le Kenya, par exemple, je parlais avec quelqu'un qui voulait aller au Kenya, et les États-Unis. Et puis intersectoriel. Intersectoriel pour l'Europe, bêtement, ça veut dire privé-public. Non, d'accord, on est non, académique dans l'académie. Donc l'idée, c'est que là, c'est entièrement bottom-up. Tous les pays sont admissibles, puisqu'on vous demande de participer des pays tiers, ils ne reçoivent pas d'argent, mais enfin, il faut qu'ils soient dedans. Et il n'y a pas de règle de mobilité, ce qui est la grande définition, puisqu'on ne va financer que les gens qui partent, si on va prendre ici les gens qui partent de Paris et qui vont soit en Allemagne, si l'Allemagne fait partie du membre du consortium, et dans ces cas-là, dans intersectoriel, c'est-à-dire si vous passez du privé au public, soit des gens qui sont de Paris et qui vont dans un pays tiers, c'est-à-dire au Kenya, au Zimbabwe, en Amérique, etc. Donc vous avez ces deux types de financement pour 4 ans et vous pouvez au minimum faire des secondes membres de 540 hommes-mois. Donc là-dessus, retenez que vous ne recrutez pas des gens, vous faites juste des détachements. Donc c'est des gens qui sont au moins depuis 6 mois chez vous, que vous envoyez soit, si vous êtes un public en France, une institution publique en France, dans une institution privée en Allemagne, en Roumanie, etc., quel que soit le pays européen, soit dans une institution d'un pays tiers, alors États-Unis, qui peut être privé ou public, c'est pas grave, mais il y a un changement de choses. Donc vous avez à nouveau des bénéficiaires, des partenaires, on trouve les mêmes choses. L'avantage, c'est que vraiment vous construisez un projet de recherche et que vous n'êtes pas obligé de faire participer soit des jeunes chercheurs, soit des chercheurs, etc. Ça peut être aussi le personnel, le staff. Donc vous avez besoin, par exemple, de faire des essais, de savoir comment vous faites les recrutements, etc. Donc les DRH pourraient s'échanger, les financiers pourraient s'échanger. Vous pouvez envoyer des docteurs, pas des docteurs. Donc il y a vraiment une grande flexibilité pour ça. Et je mets dans cette slide-là les deux types de consortiums qu'on peut avoir. Deux partenaires minimum européens plus un pays tiers. Et vous avez le minimum requis pour faire un RISE. Et on vous financera uniquement ce qui sort d'Europe pour aller dans le pays tiers. Ou alors, trois pays uniquement européens. Mais dans ces cas-là, il vous faut absolument un partenariat public-privé. Je passe celle-là. Et quand même, qu'est-ce qu'on touche? Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même ça la cerise sur le gâteau, sinon on ne fait pas quand même 30 pages de dossier pour rien. Vous allez toucher par chercheur qui part de chez vous et qui va soit dans un pays tiers, soit dans un secteur privé, dans votre cas, en Europe, 2000 euros par mois de chercheur qui part à l'étranger pour l'aider à payer le billet d'avion, la bouffe là-bas, enfin ce que vous voulez, c'est pour lui. D'accord? L'institution hôte va recevoir 2500 euros divisé en 1800 euros pour research training et 700 euros de cost, d'overhead. Donc vous avez quand même pas mal d'argent pour faire tourner le système, payer des formations, c'est minimum toujours ce qu'on retrouve, mais en même temps, redonner de la flexibilité pour en donner plus aux chercheurs. S'ils partent aux États-Unis, c'est peut-être pas assez 2000 euros, il faut peut-être voir là-dessus. S'ils partent au Kenya, 2000 euros, c'est peut-être gigantesque, donc il faut voir comment on gère les choses. Donc voilà, vous avez cette flexibilité. Pensez que nous travaillons en unit cost, en Marie Curie. Donc la seule chose qu'on vous demande, c'est de justifier les départs pendant un mois. Après, toutes les sommes sont forfaitaires. Donc, si vous pouvez prouver qu'il y a bien eu un billet de départ, un billet d'arrivée, etc., tout le reste est censé tomber et la commission ne regardera pas plus que ça, ou du moins, pour l'instant, c'est ce qu'elle dit, elle ne regardera pas en cas d'audit plus loin que ça. Voilà. Donc, si vous voulez répondre à ça, retenez que le prochain appel, c'est le 28 avril 2016. Donc, si vous n'avez pas le temps pour le 28 avril, on vous recommencerait la même chose en 2017, mais le 5 avril, il y a 80 millions d'euros. La seule chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est toujours les mêmes panels, toujours par la pression de sélection, donc les taux de succès sont à peu près équivalents, sauf erreur. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de succès est de 25%. ce qui est plutôt pas mal. Donc, c'est un outil qui est assez, par rapport au taux de succès européen, assez intéressant. Donc, ça peut vous permettre vraiment de développer un programme de recherche avec des partenaires, soit des pays tiers, si vous travaillez avec eux, soit des partenaires privés. Le processus d'évaluation, pensez bien à choisir votre panel, pensez bien à relire exactement qu'est-ce qu'on vous demande, hein, parce que les outils marqués, vous avez vu qu'ils sont différents à chaque fois. Ne faites pas un postdoc dans un ITN, ça ne sera pas possible, ou l'inverse. Et vous serez relu comme tout le temps avec 3 personnes qui vont relire votre projet, qui vont faire un consensus, qui vont se réunir, qui vont donner une note. L'avantage, c'est comme vous avez vu, c'est récurrent chaque année, on retrouve les mêmes choses. Vous obtenez une évaluation de summary report qui peut vous permettre, et je ne vous le souhaite pas, de pouvoir redéposer l'année prochaine, parce que naturellement, vous allez réussir du premier coup. Donc, c'est important de le savoir, mais vous pouvez quand même avoir cette chance-là. N'oubliez jamais que les projets Horizon 2020, c'est vrai pour ce qui a été dit avant, et c'est vrai dans mon cas, sont évalués as it is, et pas as it should, comme c'était avant. C'est-à-dire que si vous oubliez quelque chose, les experts ne peuvent pas recommander que ce projet est vraiment tellement bon, mais ça serait bien qu'il y ait ça en plus. C'est un point en moins, donc le projet est mort. Dès qu'il y a un point en moins, vu les taux de succès, ça ne passe pas. Je laisse toutes mes recommandations derrière, parce que je ne vais pas toutes les énumérer, mais quand vous aurez mes transparents, vous pourrez les lire. Plein de trucs pour vous aider. Quoi ne pas oublier quand on répond à une bourse Marie Curie? Vous allez voir, j'en ai listé un paquet. Donc naturellement, si je rentre là-dedans, on est mort. Mais je vous laisse les lire à tête reposée. Merci.
Voilà, merci bien Guillaume pour ce rythme de haut niveau. Alors, donc ne soyez pas effrayés par parfois la complexité apparente de tout ça. En fait, vous voyez qu'il y a différentes cases, différents types de coopération, et donc on peut s'adapter à chacune de ces possibilités, et le but c'est ça. Mais en tout cas, Marie Curie étant ayant des taux de succès relativement élevés, ça c'est vraiment assez intéressant pour vous de regarder dans cette direction-là, hein, notamment tout ce qui va vers la coopération internationale. Donc ayez bien ça en tête, parce que c'est certainement l'un des endroits où les taux de succès sont les plus favorables. Alors maintenant, on va passer à une présentation sur, sur comment on appelle ça exactement en français, science avec et pour la société, hein, que Didier va nous faire. Science avec et pour la société étant, je dirais, un élément transversal à tout Horizon 2020, mais qui évidemment concerne au premier plan également les sciences sociales et humaines. Didier.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc pareil, je vais avoir droit au même exercice, 10 minutes. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc du coup, je parle en tant que PCN Science avec et pour la société. Donc il y a un programme transversal de l'ensemble du programme Horizon 2020. Juste avant, je vais faire rapide, mais je parle aussi d'une institution qui est la mienne, qui s'appelle l'AMSTI, qui est l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Et en fait, tout ça pour vous dire que en fait, nous représentons l'ensemble des acteurs sur le territoire, type musée, muséum, acteurs de la culture scientifique. Et donc, en ce sens, ce programme répond aussi à une partie des actions que nos adhérents et nos membres font. Le programme donc Science avec et pour la société, transversal de l'architecture du programme, ça a son importance aussi dans l'évolution sémantique de ce qui s'est passé depuis le 6e PCRD. Science et société, science dans la société, science avec et pour la société. Donc on devient de plus en plus inclusif ou en attente d'échanges avec les citoyens. Donc ça se traduit évidemment par ce souhait de l'ensemble du programme, de partir du principe que dans l'ensemble de la société, il existe des talents et que l'idée, c'est de mettre en place des projets pour faire émerger les talents. Derrière, on voit toute la communauté qui s'est dessinée, entre autres, et qu'on a récupérée en Europe et en France, tout ce qui existe autour des Fab Labs, des laboratoires de fabrique. Donc cette idée des makers, des hackers qui, dans leur garage, dans leur communauté, créent et construisent des produits et qui peuvent demain aboutir à des projets que nous pouvons utiliser. C'est aussi la question de qu'est-ce que nous voulons en tant que citoyens en termes de paysage de la recherche et comment la recherche doit se construire. Petit aparté, ce programme, au départ, était inclus dans le programme du Défi 6. Et au moment de la sortie d'Horizon 2020, il a été sorti et mis transversal. Donc c'est pour ça que vous retrouverez aussi quand même pas mal de passerelles avec le PCN du Défi 6. point fort de disons, un axe majeur de ce programme, c'est ce qui a été développé et conceptualisé sur la terminologie recherche et innovation responsable. On ne va pas s'étendre sur le terme responsable. Certains diront la recherche a-t-elle été déjà irresponsable. En tous les cas, aujourd'hui, on parle de ce concept-là qui a été développé au travers de projets dans le cadre du 7e PCRD. Et je reviendrai pour vous présenter deux projets tout de suite après. Et donc, cette idée de recherche et d'innovation responsable, c'est l'idée de travailler avec les citoyens sur des questions de recherche, mais aussi de mettre en réflexion la question de l'éthique dans la recherche, l'open science, l'engagement des publics et l'éducation scientifique. Et comment les citoyens peuvent aussi participer aux côtés des chercheurs à des définitions de projets ou travailler sur de la recherche participative. Puisque nous sommes en Île-de-France, la région Île-de-France a conduit et conduit des projets qui s'appellent les PICRI, qui sont vraiment assimilables à ce qu'aujourd'hui on voit apparaître ici sur ce programme Recherche et Innovation Responsable. Donc ça, j'en ai parlé. La notion de multi-acteurs, elle s'entend évidemment, puisque vous n'allez pas monter un projet dans ce cadre de Science avec et pour la société en restant dans une communauté, que ce soit chercheur ou acteur de la culture scientifique. C'est évidemment l'idée de créer des consortiums où il y a une diversité de points de vue et de vision. C'est aussi ce que l'on constate dans les appels de 2014. C'est des consortiums qui sont assez importants. C'est 10-15 partenaires qui se retrouvent autour de consortiums. Donc ça devient des projets assez compliqués à manager sur des sommes qui ne sont pas forcément celles qu'on a entendues précédemment. On est sur des enveloppes de 1-1,5 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même pas les mêmes sommes à partager entre l'ensemble des partenaires. Point important aussi, c'est que tout ceci doit aussi amener de l'échange avec les décideurs, et les autorités publiques. Donc c'est ce projet que je vais vous présenter maintenant, qui est le projet Voices, qui a construit en fait une partie de ce qu'est la recherche et l'innovation responsable. Voices a été assez important dans ce sens-là. La thématique, c'était le traitement des déchets, peu importe. L'idée, c'était de mettre ensemble des scientifiques, des décideurs et des citoyens pour qu'ensemble, ils échangent sur qu'est-ce que je dois faire de mes déchets demain. Et donc, ça a abouti à des recommandations, évidemment, et ça sur 27 pays. Donc, ce qui est assez colossal et qui montre la puissance de ce que ça peut aussi donner en termes de recommandations. Un autre projet sur une autre thématique, c'est Sea for Society. Alors, on le met là parce que c'est un des rares projets coordonnés par des Français. Donc, c'est Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, l'aquarium. Et donc là, c'est la question autour du développement durable et la gestion des ressources marines. Et donc, c'est un petit peu la même chose, plus petite échelle, mais en tous les cas, aujourd'hui, les recommandations qui sont en train d'être faites sont en train d'être reprises, et donc c'est assez satisfaisant. Le programme de travail 2016-2017, aujourd'hui, on voit apparaître vraiment cette notion de RRI, mais non plus uniquement que pour, entre guillemets, les acteurs de la culture scientifique, mais avec une volonté de questionner cette recherche et innovation responsable. Donc la place des SHS est largement attendue et du coup, des consortiums peuvent se mettre en œuvre et il y a tout à fait de quoi observer et de quoi imaginer des projets assez intéressants. Voici donc là les quatre grandes thématiques de 2016-2017. Je passe là-dessus. Vous avez le temps de regarder puisque les appels sont pour se clôture en septembre 2016. Donc évidemment, comme tous les autres PCN, nous sommes à votre écoute pour échanger avec vous. Voilà les. Bon, du coup, je vais peut-être rester un peu plus longtemps. sur les différents types de projets qui peuvent exister. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est listé sur tous les documents que vous pouvez trouver sur les différents sites. Je pense que je vais passer parce que du coup, ça va être beaucoup trop long. Voilà, j'ai bien fait de passer. Un petit retour sur la participation française. Ce que l'on voit sur les appels 2014, c'est qu'il y a 17 acteurs français qui ont participé dans 11 projets différents sur 19 projets retenus. Donc en termes de déposants, on n'est pas forcément bien placé. Mais par contre, en termes de projets retenus, eh bien, on voit que la France est finalement pas si mal. Mais on remarque encore une fois que nos amis du Royaume-Uni sont encore les premiers, même sur ces questions-là, science avec et pour la société. Voilà des sites d'information, ne pas hésiter à les consulter. Je suis passé vite sur la question aussi de la RRI qui a fait l'objet d'une déclaration de Rome en 2014, qui a également été repris en décembre 2014 lors d'un conseil compétitif. Donc la notion transversale de science avec et pour la société, le fait que RRI soit présente dans cette notion-là, le fait que ce soit repris aussi par le conseil compétitif au niveau européen, est-ce que ça veut signer un engagement ou une volonté forte? En tous les cas, je ne sais pas sur le long terme, mais au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment que cette notion sa place et prend de plus en plus d'importance dans les appels à projets. Voilà, les sites classiques. Donc merci beaucoup. Donc nous sommes pas nombreux sur ce PCN. Nous sommes deux, donc Anne-Sophie Gallou et moi-même. Vous avez des brochures à l'entrée si vous voulez nous contacter, et j'ai quelques documents aussi pour vous montrer un peu le panel de ce qui a été fait dans le 7e PCRD pour regarder un petit peu ce qui se fait. C'est consultable aussi en ligne. Donc voilà, ça donne un peu les projets qui ont été financés dans le précédent programme, et donc nous avons réalisé ce petit catalogue. Voilà, merci.
Bon, merci encore à tous les trois.